Salut, bienvenue avec Leïla Kadouchevi, Morgane Guélignan, Florence Lanez, Daniel Morin, Jean-Pierre Pastureau et notre invité, Monsieur Raphaël Haroche. Oui, Raphaël, quand c'est le chanteur, on dit Raphaël. Quand c'est l'auteur, on dit Raphaël Haroche.
Et quand c'est le danseur, suspense.
On va lui demander.
Jean-Paul. Chez Gallimard, il publie son nouvel ouvrage qui s'appelle Une éclipse, un recueil de nouvelles, même s'il y a un petit fil ou un film conducteur entre toutes ces nouvelles. On va l'évoquer avec lui dans quelques instants. Mais évidemment, Raphaël, invité dans la bande originale, un blind test autour de...
Raphaël. Les huîtres.
Morgane, ouais. Romeo Elvis.
Quoi ?
Romeo Elvis, soleil.
Le soleil renaît dans ma vie.
Le soleil renaît
dans ma vie. Le soleil renaît dans ma vie. Le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco. Le soleil renaît dans ma vie. Y'a pas de quiproquo. Le soleil renaît dans ma
c'est
vie.
Bien, hein. Attention, premier point pour Morgane. Qui chante ça ?
Nicoletta.
Morgane.
Non, j'ai
eu
l'Indochine.
Indochine.
Ah, faut dire son prénom,
c'est
ça. Son prénom, merde.
Comment je m'appelle ?
Daniel.
J'ai oublié.
T'as compris la vanne ou pas ?
Oui, je crois. Pas sûr encore.
Soleil, lune, soleil.
Nicoletta.
Daniel, je veux du soleil.
Oh,
je suis lente. Ça, c'est normal, c'est un 11 novembre, c'est normal. T'es off, en fait.
Moi, je suis lente.
Mettre de bonne humeur comme ça en 3 secondes.
À 11 novembre, d'accord.
Au petit bonheur, qui chante ça ?
Nicoletta, Florence.
Arrête, tu vois.
Il est mort, le soleil, il va bien finir par sortir.
T'as raison.
Non ?
Un jour j'irai sur la lune.
Morgane ?
Ouais.
Big Flo et
Oli. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais.
Pour l'instant, 3 points pour Morgane. Ouais. Entre soleil et lune, tu cartonnes.
À moi, tout ce qui touche aux astres. N'importe quoi.
Avion.
Ah, Morgane, oui. C'est William Baldé.
Mais oui.
C'est qui William Baldé. Soleil, j'adorais cette chanson.
Ma main suspendue, feu de ton jardin. Ma main sur ton petit cul. Cherche le chemin.
Bah ouais. Alors, attends. Je n'ai jamais entendu ce titre de ma vie.
Ah non, ça a été
mais c'est génial.
Ça a été un tube, ça. Ça, c'est... T'as jamais entendu ça ?
Mais je jure.
T'as pas été au mariage de Morgane ?
C'était en rentrant dans l'église. Je t'ai saoulé. En limbo.
J'ai la scène.
Voulez vous prendre pour vous ?
Non, jamais.
Sur tes cheveux longs.
Si, c'était un...
Mais quelle année ? Quelle période ?
C'est
2010 ?
Non, 2012.
N'importe quoi.
N'importe quoi.
C'est un bel tube de l'été.
C'était juin.
Attention.
Moonlight Shadow, Daniel, pardon.
Oui, Daniel.
Carried away by the Moonlight Shadow.
Michael Field.
Shadow.
On a 4 points pour Morgane, 2 pour Daniel Morin. Oh, et alors, au niveau. Là, c'est la véritable éclipse hein, pour Leïla.
Éclipse.
Attention, dernier titre avant de recevoir Raphaël Haroche pour une éclipse.
Florence,
justement.
Bonnie Tyler.
Arrête.
C'est le Super Bowl.
Ah oui, total éclipse. Ah oui,
je vois. Ah oui, mais c'est ça.
Voilà. Est-ce qu'on peut dire que j'ai gagné ?
Mais pourquoi je ne l'ai pas fait ?
Mais parce que vous n'êtes pas brillant, Nagui.
Mais oui, je reconnais. Surtout une.
Quand le ciel sera moins gris.
Sheila ?
Non.
Daniel ?
Oui.
Angèle ?
Non.
Leïla ? Florence, sors sourire. Nicoletta ?
Non.
Florence, sors sourire.
Non.
Un jour comme un ami.
Super
cool. Morgane, François Hardy ?
Non.
Daniel, France Gall ?
Non. Écoutez.
Florence, Marie Laforêt.
Mais je veux déjà.
Daniel. Je sais pas.
Attends.
Soleil.
En plus,
t'as quelque chose.
Daniel
Mouskouri. Ah oui, j'entends ça. Daniel Mouskouri. Non, mais ça va ou quoi ?
Pardon,
je ne serais pas
concerné.
C'est la pire victoire
depuis le début, Daniel.
Tu me donnes le point, Daniel.
Non, mais non.
Oui, avec les lunettes.
Elles sont belles, tes lunettes. Victoire de Daniel Morin.
C'est Nana Mouskouri.
Victoire de Nana Mouskouri.
Plus jeune, plus.
Elle était très bien.
Merci d'accueillir Raphaël Laroche.
Elle était super. Ça m'a permis.
Avec Nagui. Nous avons tout fait autour du soleil et de la lune pour jouer avec cette première nouvelle, une éclipse. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro pour parler de ce recueil de 12 nouvelles et d'une rencontre.
Oui, exactement.
Parce que la fin du livre est totalement dingue. Elle pourrait même être l'interview et cette émission. Est-ce que la dernière rencontre dans un hôpital est une fiction totalement inventée ou il y a quand même une base de vrai ?
Il y a une base de vrai. C'était une rencontre dans un hôpital de jour avec des autistes, des jeunes autistes. Et je me suis imaginé que, je sais pas, qu'ils étaient comme ça omniscients, qu'ils savaient tout ce que toutes les sources d'inspiration et bien d'autres choses encore. C'est une nouvelle un peu fantastique. Et ça faisait comme unifier toutes les autres nouvelles.
Oui, c'est ça. Et puis surtout, ça permet d'élucider et de répondre déjà à des questions avant l'heure.
Oui.
Parce qu'il y a des questions. Ce qui est drôle, c'est oui, c'est une fiction. Il y a des questions qui vous sont posées et vous dites, mais comment vous savez ça? Je ne l'ai jamais dit.
Voilà, c'était le lieu de vie de tel auteur ou de telle personne.
Oui.
C'est génial.
Et c'est vrai qu'il y avait en plus dans la réalité, il y avait quelques questions comme ça où il habite Benjamin Biolay. Je dis, je sais pas. Mais comment, pourquoi vous savez pas? Est-ce qu'il y a une église à côté de l'endroit où il habite? Je sais pas. Enfin, laissez-moi tranquille.
Foutez-moi la paix. Mais
c'était très, non, puis il y a des questions plus troublantes sur votre frère, sur des questions personnelles.
Ouais, bien sûr. Oui, ils connaissent plein de choses de.
Raphaël, que même moi j'ignore.
Je voulais dire que c'est ironique. Je voulais dire que je suis très calme.
Totalement. Dans ce nouveau ce recueil de nouvelles, même s'il y a encore une fois quelque chose qui est plus lié, est-ce qu'il faut chercher d'ailleurs un lien entre toutes ces histoires? Elles ont en tout cas des points communs sur les blessures de la vie. La mort est très présente. Oui.
La peur aussi.
Ça donne envie, ce que vous dites.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que la mort est présente.
Un bon livre de novembre, quoi. Hein.
Oui. du 11. La mort est présente au sens où elle donne, entre guillemets, le goût de la vie aussi.
Ouais. Bah oui, il y a toujours un peu ce truc de... Si, en fait, des nouvelles, il faut qu'il se passe quelque chose. On n'a pas le droit de s'emmerder. Donc moi, je tue quelqu'un à peu près dans chaque nouvelle. Ouais. C'est comme ça. C'est l'idée d'avoir une dramaturgie. Donc il faut qu'il se passe un truc.
Même les chiens. Donc,
même les chiens. je tue plusieurs chiens dans une nouvelle. Oui, peut-être 5-6 comme ça.
Ouais. C'est un serial killer de chiens, en fait. Oui.
Bah, surtout un chien qui s'appelle Bowie, t'imagines.
Ouais.
Pas ça, Raphaël.
Dans les films d'horreur, on veut toujours que le chien survive. Et j'ai trouvé ça très cruel aussi de tuer le chien. C'est vrai, dans les films d'horreur, la lueur
c'est toujours la personne de couleur. J'ai envie qu'elle survive, mais elle meurt toujours en premier.
Vous avez porté ce nouveau recueil de romans avec une... alors d'abord, c'est une réussite, hein, je tiens quand même à le dire avant toute chose. C'est un bonheur de vous lire, mais j'imagine que le premier recueil de nouvelles qui a été couronné de succès du prix Goncourt et ainsi de suite était finalement... écrit avec une totale détente parce que vous ne pensiez pas même être peut-être lu ou publié.
Pourtant,
à l'époque.
Je suis détendu, hein, déjà. Je suis détendu, c'est... Prends l'attention.
Mais autant vous n'étiez pas...
Attendu.
Autant, c'est ça, la première fois, autant là, vous l'êtes énormément. Parce que le prix Goncourt n'a pas finalement aidé la discrétion.
Non, c'est vrai. Après, je suis pas tant attendu que ça, mais je dirais que... Ça m'a stressé, c'est vrai que ça m'a stressé. Le premier livre, c'était fait exactement, comme vous dites, totalement sans réfléchir, très légèrement. Et puis, il a eu un accueil magnifique avec un prix, et puis il a bien marché.
Alors, vous êtes passé de détendu à attendu, en fait.
Exactement. Et c'est pas très bon, parce que ça crée des tensions, des choses comme ça. Donc, j'ai mis longtemps à l'écrire, celui-là. J'ai bien réfléchi. Je pesais chaque mot en me disant est-ce qu'on va pas me le foutre à la gueule? Est-ce qu'on va pas me détester, puis après maintenant je m'aperçois que ça va, c'était bien. Faut pas prendre les choses trop sérieusement non plus, quoi.
Et la nature
on n'est jamais vraiment attendu, en fait. On devrait toujours être détendu.
Et la nature de ce stress, la nature de ce stress, justement, de cette attente pour le deuxième recueil, en quoi elle est différente du stress de produire un autre album en musique, puisque vous avez ces deux cordes-là.
Oui, déjà c'est très solitaire. Un livre, on est vraiment tout seul. Alors qu'en musique, on partage ça avec plein de gens. Parfois, on coécrit des chansons. Ensuite, on a des producteurs. le truc se construit à, je sais pas, 3, 4, 5, 8, il y a beaucoup de gens qui interviennent, donc c'est quand même un truc en commun qu'on livre, et si ça foire, on peut toujours dire c'est la faute de l'autre mec, oui, il m'a écrit cette chanson de merde, non, ça m'a mis dans le mur.
À l'inverse,
moi j'étais sans lui, qu'est-ce que je...
À l'inverse, même dans un studio, j'imagine qu'il peut y avoir des commentaires aussi sur des arrangements, sur tu es sûr du son de la guitare, tu es sûr de faire cette chanson sans refrain,
oui,
ou ainsi de suite. Enfin, il doit y avoir plein de commentaires extérieurs dont on doit aussi se protéger pour continuer de créer.
Oui, c'est vrai. Mais alors que là, pour un livre, on est très très seul tout le temps, et même au moment où le livre sort, on reste très très seul. Et souvent, les gens ne vous disent rien. Ça prend, parce qu'il faut quand même le temps de lire un livre. Donc ça prend une semaine, deux semaines, un mois, et du coup, on est comme ça un peu. Et on a l'angoisse à la fois de que les gens aiment bien votre livre, l'angoisse des gens qu'on évoque dans le livre et qui peuvent vous passer un coup de fil en disant excuse-moi, là vraiment, j'ai pas du tout aimé cette petite référence, même si ça reste un peu
caché, souterrain.
Caché. Ouais. Mais pour l'instant, tout s'est très bien passé. J'ai pas
reçu de courrier.
Il s'appelle Jean-Claude, le personnage, mais il ne me prend pas pour un con. Je me suis reconnu.
On va parler de Claire, parce qu'il y en a une qui est souvent, en tout cas dans ses nouvelles. Une éclipse, le nouveau recueil de nouvelles donc, de Raphaël Laroche, qui est une réussite, ce livre extrêmement agréable à lire.
Et puis attendu.
Même si, publié chez Gallimard, même si j'ai dit en effet que ça parlait beaucoup de peur, de mort.
D'amour aussi.
D'amour. Il y a aussi le handicap, mais le handicap vu d'une manière extrêmement souriante, voire sexy. Tout ça, on va l'évoquer avec Raphaël Laroche, qui est notre invité. Mais d'abord, vous savez que nous, autant nous sommes ravis de vous accueillir, autant c'était pas le cas de tout le monde. Voici Morgane qui a dit. Morgane, on en a trouvé une, Raphaël. Morgane ne vous aime pas.
Oui. Oh, la seule, je pense, Raphaël Laroche. La dernière fois, je vous ai pas aimé en tant que chanteur. Là, je vais pas vous aimer en tant qu'auteur. C'est bien aussi. Les amis, c'est important de varier la haine. Regardez, un mec comme Éric Zemmour, il se repose pas sur ses acquis jamais quand on croit qu'il bloque sur les musulmans. Et bah, hop, on passe aux femmes. Ah! C'est comme jouer au squash quand t'es aveugle. Tu sais jamais de quel côté tu vas te la prendre. Titre de ma sextape, hein. Tu sais jamais de quel côté tu vas te la prendre.
Non,
les errances d'une femme astigmate, mais néanmoins très libre. En route pour le Goncourt, je pense. Donc, je vous aime pas maintenant en tant qu'écrivain.
Oh là 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 là. Oh là là.
Donc je vous aime pas maintenant en tant qu'écrivain, surtout que finalement c'est facile dans ce sens-là, de chanteur à auteur, parce que le contraire, un auteur qui devient chanteur, personne n'a envie d'écouter l'album d'Emmanuel Carrère, je pense.
Bah j'imagine. Si, moi j'aimerais. J'adore.
C'est vrai. Ah, ça doit être un mélange entre Léonard Cohen et Damien XVI, bref, un truc bien bien solaire. Et je dois vraiment vous remercier, Raphaël, aujourd'hui, vraiment, un vrai merci du fond du cœur, parce que ça fait quelques années que je suis une lectrice assez assidue. Je lis d'ordinaire pas mal, je trouve toujours le temps de me faire un ou deux chapitres dans la journée. Les livres sont mes amis. Non, vraiment, c'est un peu triste. Les livres sont mes amis. Genre, j'ai de moins en moins d'amis humains. Et prendre l'apéro avec une Pléiade, c'est agréable, sauf que pour qu'elle te réponde, faut lire. Et qu'un livre n'a pas de main pour te tenir les cheveux à la fin du dit apéro. Et là, depuis septembre, j'étais bloquée, les amis. Vraiment, j'arrivais plus à lire du tout. Je commençais que des bouquins qui me plaisaient absolument pas. J'arrivais pas à finir. Vous voyez où je veux en venir? A priori, un compliment, hein. T'imagines l'angoisse si je termine cette tirade pas. Ça a été le cas également avec le vôtre. C'est de la merde, j'ai pas tenu 4 pages, bonne émission. Non, votre livre, je l'ai terminé en 2 soirées, Raphaël, et ça m'a remis dedans. Enfin, un chanteur m'a réconcilié avec la lecture. J'adore le concept, Raphaël, vous avez brisé ma malédiction. J'arrive de nouveau à lire. Du coup, je me suis empressée d'aller me procurer Retourner à la mer, que j'avais pas lu, le Goncourt de la Nouvelle 2017, car je voulais pas laisser retomber ce que je nomme à présent l'effet Haroche. J'ai couru dans ma librairie, j'ai dit à la dame: "Bonjour, je voudrais retourner à la mer s'il vous plaît." Elle m'a répondu: "Ouais, on est tous crevés, mademoiselle, hein, mais l'été c'est dans 9 mois, mais si vous avez envie de soleil, achetez L'Adversaire d'Emmanuel Carrère." Alors on va pas se mentir, chers auditeurs, on est sur une chronique qui, si vous n'aimez pas les jeux de mots, vous avez pas lu Emmanuel Carrère, peut devenir un temps calme dans votre matinée. Mais heureusement, les mauvaises blagues ou les blocages littéraires, c'est comme les éclipses, ça dure jamais très longtemps. Le seul truc qu'il faut, c'est pas trop les regarder en face, sinon on risque de s'abîmer les yeux. Et je vous ai déjà raconté en début de papier ce qui se passe quand on voit plus clair.
Merci Morgane.
Et Morgane, on se retrouve ce soir, donc du jeudi au samedi, à 20h au Métropole Théâtre.
Bien joué.
Mais ouais.
Retourner à la mer, c'est vrai que l'éclipse ouvre avec l'Atlantique aussi.
C'est
donc
vrai.
L'eau est très présente.
L'eau est très froide.
Cette île, cette maison sur cette île, en tout cas, ouvre la première nouvelle. Il était important, d'ailleurs, l'ordre des nouvelles était important, c'est-à-dire que quand on parle de fil conducteur ou de film, j'aime bien cette image aussi, cette idée de dire que les images se suivent, même si c'est pas forcément les personnages, mais les images, oui, les ambiances aussi. Vous aviez un ordre de ces nouvelles avant?
Comme ça se construit un peu petit à petit, mais j'avais envie que ça commence par une nouvelle très ouverte, justement, sur la mer, sur la nature, un truc très vibrant comme ça, et qui est une forme de puissance, que ça commence pas par quelque chose d'un peu anecdotique ou déconnant, mais par un truc. Et puis qu'il y ait du mystère partout, ouais, c'est ça. Ouais. Les deux, trois premières nouvelles, elles sont vibrantes de trucs bizarres, un peu... Il se passe des choses astrales, on ne fait pas l'accord, on n'est pas astro. Hein.
Astral, des choses.
Il se passe des choses.
C'est comme des chantiers navals.
Il se passe des choses mystérieuses, un peu opaques, les personnages ne comprennent pas trop les règles dans lesquelles ils sont plongés. Ouais. Et j'aimais bien que ça commence comme ça. Et après, on se détend un peu. Moi, je dirais quand même que ce livre est marrant. Ah, moi, j'ai un sens de l'humour très particulier qui fait très peu de gens, c'est évidemment. Vrai. Mais ça peut faire marrer là, certaines...
Ouais, certaines
elles sont
scènes.
Censées toutes être drôles, quoi, je dirais. Il y a toujours un truc un peu dramatique, mais il y a quelque chose de drôle. Après, c'est l'humour, c'est toujours un peu quand c'est la merde, quoi.
Ouais, alors non, l'humour peut sauver de situations dramatiques.
Vous connaissez ce mec là qui monte sur l'échafaud un lundi et qui dit la semaine commence mal, ça c'est vraiment c'est un certain panache. Quoi.
Et bien il y a des personnages que vous chérissez tellement qu'ils reviennent dans d'autres nouvelles en fait.
Oui, il y a 5 nouvelles avec le même couple comme ça qui se perdent, qui se retrouvent. C'est quand même c'est le fil conducteur du livre, quoi. C'est l'histoire d'un couple qui arrive pas à se quitter, qui se retrouve et qui perd pas l'espoir que les choses se réarrangent à la faveur de la mort de je ne sais quelle personne, qu'on puisse se rabibocher ou je sais pas quoi.
Ouais,
le personnage est assez lâche, comme ça, dès que quelqu'un meurt, il essaye de se rapprocher de la fille qu'il a jetée en disant tu vois, la vie est courte, enfin,
purée. Ou même des scènes de ménage. C'est vrai qu'il y a aussi cette nouvelle qui s'appelle Signe particulier, je crois, qui est drôle, et comment rire d'un handicap ou en l'occurrence d'une fausse main ou d'un faux bras.
C'est un rendez-vous Tinder. Elle arrive, elle est merveilleusement belle.
Oui, mais elle a oublié de prévenir qu'il lui manquait un bras.
Il lui manque un bras et il n'arrête pas de faire des références à des choses qui pourraient être blessantes quand on n'a pas de bras. En fait.
Mais surtout, il dit, et c'est pas un signe particulier ça. Elle aurait pu le mettre dans signe particulier, pas de bras.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai, mais c'est tellement méchant.
C'est vrai.
Et puis ça picole pas mal quand même.
Le jean, c'est votre boisson préférée.
J'aime bien le jean.
Ouais, bah, il y en a dans toutes les nouvelles, le jean. Hein, c'est vrai, le jean, un truc avec le jean.
C'est vrai, c'est pas mal. Il n'y a pas de bon jean. Enfin, c'est un peu comme la bière, quoi. C'est pas comme le vin ou le whisky. Le jean, c'est standard, quoi. C'est toujours ce qu'on a.
C'est toujours une réussite, toujours un succès. Exactement. Voilà, c'était la promotion. Oui.
C'est un côté pratique.
Vous ne serez jamais déçu. C'est ça. Dans la peur est présente aussi. Alors il y a différentes formes de peur, peur de la santé, peur de la mort, peur de perdre l'amour aussi. C'est un moteur, la peur. Ça fait faire des bêtises aussi. Ça fait tuer des gens. Ouais. Ça fait commettre des crimes.
Je dirais pas que c'est un moteur. Je dirais que souvent quand j'écris une nouvelle, je me dis voilà quelque chose qui m'angoisse. Je le pose quelque part et c'est comme si je l'exorcisais. C'est comme je le file à quelqu'un d'autre, quoi. Démerdez-vous avec ça. C'est comme bon. Bref, il y a une blague juive où quelqu'un doit de l'argent à un autre et puis le type se retourne dans son lit et puis il arrive pas à dormir. Sa femme lui dit qu'est-ce que t'as? Il dit j'arrive pas à dormir. Je dois 10 000 euros à Isaac en face. Il dit attends, c'est que ça. Elle ouvre la fenêtre. Elle dit. Et Isaac, il te doit 10 000 euros. Il dit, oui, le type en face se réveille. Il a pas le premier sou pour te les rendre. Elle referme la fenêtre. Elle dit, maintenant, c'est lui qui dormira plus. C'est ce que j'essaie de faire un peu avec mes nouvelles.
C'est vrai que ça marche. C'est vrai que ça marche. Ça marche plutôt bien. Cette peur pour en revenir à... Alors, moi, pardon, j'ai beaucoup vu de morts. Alors, c'est peut-être mon état d'esprit en ce moment, mais la mort est très présente. Oui. Ça va bien, mais comme un mois de novembre. Non, la mort est très présente. Elle est présente comme un simple passage finalement, et pas toujours comme quelque chose de grave. Ça aussi, vous en débarrassez. Est-ce que vous, en fait, quel est votre rapport à la mort?
Moi, je dirais que c'est grave. Il y a une phrase que j'aime bien. Je crois que c'est Jerry Lewis qui dit
deux choses graves dans.
Ouais, c'est ça exactement. Ouais. J'aime bien qui dit deux choses graves dans la vie, la naissance et la mort. Tout le reste, c'est à se tordre de rire. Moi, je trouve que c'est quelque chose de grave. Mais après. Bon, on vit au milieu de ça, on perd les gens, ensuite ils s'agrègent dans la mémoire, dans les souvenirs, dans les rêves, ils commencent à vous parler. C'est étonnant, parfois je rêve de gens qui sont plus là et comme la restitution de leur voix est intacte, précise, on entend comme ils peuvent vous commenter des choses que vous vivez aujourd'hui. Donc,
c'est la première chose que l'on perd d'ailleurs, malheureusement.
La voix.
On peut se souvenir d'un parfum, on peut se souvenir d'un regard, d'un sourire, mais la voix, c'est quelque chose qu'il faut...
Mais dans les rêves, elle est restituée intacte, c'est ça qu'il
faut chérir. Il ne faut pas l'oublier.
Et donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un endroit où les vivants et les morts peuvent cohabiter, discuter. Et peut-être c'est, je sais pas, l'œil d'une photographie ou l'espace d'un rêve. Et c'est présent dans ce que j'écris. J'ai vraiment un truc un peu, un peu perméable entre les deux.
Ouais, mais quand il y a une espèce de western avec deux hommes qui vivent dans une maison isolée, ouais, ça finit, c'est du Tarantino, quoi. C'est,
ouais,
c'est
ça finit mal. Ouais.
C'est ça. Ouais. On est d'accord. Ouais. Et puis à l'inverse, il y a cette dame qui doit nettoyer entre guillemets son appartement avant de partir, qui demande l'aide d'un voisin qui n'a visiblement pas les mêmes intentions qu'elle. Et tout ça met chaque fois le contexte. Alors je veux pas trop en dire, sinon il y a pas d'intérêt à lire le livre, et au contraire c'est tellement bien écrit que ça vaut pas la peine d'être raconté. Mais les angles que vous prenez pour parler de la mort et de la manière dont elle est vécue ou dont elle est une solution ou au contraire une crainte, c'est très ludique, mais c'est du cinéma. Je vois des films.
C'est vrai que pour la nouvelle Les Matriciens, il y a quelque chose d'hyper visuel. C'est deux hommes dans cette maison qui
sont assiégés,
qui s'aiment, qui en tout cas qui ont une relation depuis des années ensemble, qui sont connus à l'armée, l'un était l'aide de camp de l'autre, et qui sont complètement assiégés par une bande de jeunes qu'on n'aperçoit pas parce qu'il y a les lumières, des motos, des voitures, un bruit qui ne cesse de s'amplifier autour d'eux, comme s'ils étaient pris au piège.
C'est ça, non, mais c'est une scène de film.
C'est
visuel.
Ouais, ça pourrait être un film, effectivement. Ouais. Ça pourrait être un film. J'aimerais bien voir ce genre de film.
Mais alors justement,
Michael Caine dans l'un des... Pas mal, Michael Caine.
Ouais.
Encore là,
et pour Soraya, ça serait qui?
Et Gene Hackman. Pour Soraya, Selena Gomez.
Allez.
Voilà. J'ai fait un film américain.
quand vous écrivez, est-ce que justement ce sont des images que vous voyez ou sont des sons que vous entendez? Est-ce que vous lisez à haute voix ce que vous écrivez pour savoir comment ça sonne?
Oui, c'est la technique de Flaubert, vieille technique de Flaubert,
qui
hurlait ses romans, en plus, c'est, enfin bon. Mais oui, parce qu'on entend la musique, on voit tout de suite s'il y a une répétition, si c'est lourd, si c'est mal foutu, si on n'arrive pas bien à le lire, c'est qu'il faut couper, tailler, et
oui, mais le langage parlé et le langage écrit ne sont pas les mêmes.
Cette phrase de deux pages est beaucoup trop longue.
C'est vrai.
Disait Proust.
Non, c'est vrai. C'est vrai, après, il faut trouver son langage et tout ça. Il peut y avoir des textes avec un langage très parler très vulgaire qui est magnifique, et des fois on peut avoir envie de quelque chose de plus précis ou plus soigné ou je sais pas, mais oui, en tout cas moi je récite, mais après c'est pas tellement la musique, je crois c'est des images,
c'est
vraiment une vision, un truc comme ça qui se fixe comme et ensuite je tire le fil autour de cette vision.
Non,
un peu comme une chanson. Et
d'où la présence de la nature, parce que c'est vrai que vous avez donné le nom le titre d'Éclipse,
qui est
précis. On peut l'interpréter de différentes manières, mais c'est vrai que les astres sont très présents, l'eau est très présente aussi.
Oui.
Mais je pense qu'elle est tout aussi importante dans votre vie. L'effet de la lune sur la mer ou sur les océans, en tout cas, est indéniable. Et donc l'impact aussi sur le corps humain.
Oui.
Et c'est là où on est très aussi proche de la nature et des sentiments presque primaires.
C'est un personnage dans une de ses nouvelles qui se dit, voilà, sa femme est en train de le quitter, et il dit, mais de toute façon, on n'a pas de libre arbitre. Voilà, quand il y a le soleil, quand il fait 40 degrés, les gens ont envie de baiser, et quand, je sais pas, la lune fait monter les océans et fait accoucher les femmes, alors on n'a pas de libre arbitre, on dépend des astres, donc peut-être qu'elle non plus n'a pas de libre arbitre, et voilà, son éclipse, c'est comme ça. Il faut accepter. Et je crois ça, moi je suis assez d'accord avec ça.
Lui,
enfin, on a un libre arbitre, évidemment, on peut s'empêcher. Il y a cette phrase très belle de Camus qui dit « un homme, ça s'empêche », il a raison. Mais on est quand même un peu comme ça, soumis à des choses qui nous dépassent. Quoi.
On peut aussi faire l'amour d'une pleine lune.
On peut aussi
en tout cas, pour ce personnage, il y a beaucoup de soleil. Il y a toujours du soleil dans sa tête. Hein. Il est toujours avec un plein soleil. Quoi. Il a une obsession, il a très très envie tout le temps. Il est très très engagé, quoi, ce personnage.
Il a envie de baiser, ça
veut dire. Il est très intéressé.
C'est joli,
quoi.
C'est plein soleil.
Oui, c'est plein soleil. Il est en plein soleil. En tant qu'auteur, vous avez le droit de vie et de mort sur une phrase. Qu'est-ce qui fait qu'une phrase, on la conserve ou on la conserve pas à la relecture? Quand on s'est tous un peu essayé à écrire des textes, même que ça soit des cartes d'anniversaire ou des choses un petit peu plus profondes où on veut livrer, ça prend. Alors on fait des brouillons, mais surtout une fois qu'on laisse le temps du repos, on revient sur ce texte-là. On se demande aussi, enfin moi je m'interroge toujours sur la sincérité d'une phrase, la dimension un peu pas m'as-tu vu, mais bon, on sait qu'on va être lu, donc on sait qu'on a envie de donner, on l'espère, une image de soi dans ce qu'on écrit. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, quand on se relit, on sort les ciseaux à moustache, on coupe un peu à droite à gauche.
Ouais, on valide.
Ouais, et on garde.
Déjà pour les messages d'anniversaire, tout un truc facile. En règle générale, on fait le même tout pour les naissances. Non, moi, j'ai un message standard comme ça, en espérant pour que les gens se connaissent.
Pas. C'est
décevant.
Non.
C'est une grande technique. Oui, on change les noms en règle générale. Ah bah oui, on n'est pas si paresseux que ça.
Ça serait
toujours temps de l'être plus tard.
Quel auteur. Il changeait les noms.
Il fait pareil avec ses chansons.
Ah non, je suis déçu.
Non, mais je rigole. Mais je veux dire, c'est très prise de tête de faire un texto ou un message. Effectivement, ça peut prendre des heures et des heures, ou prendre très longtemps pour faire quelque chose de personnel, c'est vrai. Et alors, parce que finalement, c'est un peu toujours la même situation et on doit trouver quelque chose de différent, c'est compliqué. Alors, quand on écrit une histoire, on suit quand même le fil de son histoire, donc il n'y a pas cette nécessité d'être original.
On peut se faire embarquer par ses personnages et par son histoire aussi.
Mais quand on se relie encore une fois, qu'on a son histoire.
Comment corriger, comment tailler?
Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas? À quel moment on se dit, parce que parfois il y a des phrases comme ça qui viennent, on se dit cette phrase est absolument géniale, je la mets. Et elle va impliquer la suite du texte. Et finalement, en relisant, on se dit peut-être que je suis en train de me mettre moi-même un chausse-trappe avec cette phrase ou cette partie-là qui va m'amener ailleurs parce que c'est juste pour le bonheur de lire cette phrase-là.
Déjà, j'ai un éditeur ou une éditrice et je lui fais lire et ensuite elle me fait des coupes, elle me dit ça, c'est pas la peine, ça se répète, ou bien parce qu'il y a une répétition réelle, ou bien parce que tu l'as déjà dit sous une autre forme plus tôt. Et moi, j'écoute toutes les coupes qu'on me dit. Si quelqu'un a eu un sentiment de trop, c'est qu'il y a une raison. Quoi. Je suis pas du tout, j'ai pas d'égo.
Vous êtes bon élève.
Ça me gêne pas. Souvent, si on me le dit, c'est qu'il y a une raison. Et puis. Ça me gêne pas de couper.
D'accord.
Du tout.
Et c'est vous qui écrivez vos livres?
Oui. Et surtout dans une nouvelle,
on
n'a pas le droit de s'ennuyer. Bah autant dans un livre, on peut s'emmerder, autant dans une nouvelle, c'est court, on peut pas s'ennuyer.
Je crois que dans un livre, si les 30-50 premières pages n'accrochent pas, on n'a pas forcément envie de continuer.
Non, c'est vrai, mais c'est des moments.
Pardon, c'est un peu comme une chanson. Si on n'est pas accroché par une ambiance, un gimmick dans les premières secondes, Tu l'as beaucoup évoqué dans les masterclass aussi avec les artistes que
Boris
tu avais
Berman
reçu.
Disait les deux premières phrases d'un refrain, il faut qu'elles soient là tout de suite, sinon et les deux premières phrases d'une chanson aussi, par extension.
Oui, mais un roman c'est très différent. Ouais. Une nouvelle ou une chanson ça peut être pareil. Un roman c'est différent. J'ai par exemple quand Proust a sorti du côté de chez Swann, le premier volet de la recherche. Les premiers lecteurs de Gallimard ont dit, mais comment c'est possible? Le mec met 70 pages pour expliquer comment il s'endort. On se moque de nous, quoi. Il était manifestement pas accro au début du livre. Donc il faut aussi prendre la mesure de du tempo de l'auteur.
Notre époque aussi.
Il y a des livres très compliqués qui sortent aujourd'hui. Il faut apprendre à les aimer, tu vois. Je sais pas. Hein. Mais moi, ça m'est arrivé, par exemple, de rien comprendre à un livre 10 ans avant et puis 10 ans après de me dire purée qu'est-ce que c'était beau.
Je suis d'accord.
Et même c'était pareil pour des
musiciens. Il y a une question d'âge,
musiciens.
On n'a pas toujours l'âge d'écouter, de lire des livres aussi.
Même un musicien, quand j'étais jeune, un mec comme Elliott Smith me disait c'est un peu comme les Beatles et tout ça. Aujourd'hui j'écoute, je pleure tellement c'est beau. Je me dis comment j'ai pu aller le voir en concert et trouver ça classique alors que s'il n'y a rien de plus beau. Donc il faut du temps parfois.
En tout cas, c'est une réussite ce recueil de nouvelles, Une éclipse, signé Raphaël Haroche et Gallimard. On va continuer d'en parler évidemment avec lui jusqu'à 12h30. Voici Florence Mendez d'abord. Calme-toi.
Salut tout le monde. Alors, j'ai pas l'intention d'encore faire une chronique sur le féminisme. Pour preuve, comme sujet du jour, j'ai choisi les pandas. Les pandas dont on vient d'apprendre qu'ils se servent de leur pelage pour se camoufler et dont on savait déjà qu'ils ne veulent pas baiser. Et vous savez qui d'autre ne veut pas baiser? Les femmes. Voilà. Oui, vous l'aurez compris, cette semaine, on va encore parler de la culture du viol puisque plus un jour ne se passe sans que l'on entende parler d'une affaire d'agression sexuelle avec dans la foulée un pote au mec accusé qui vient nous dire que non, son pote n'a pas pu violer. D'ailleurs, il peut témoigner de toutes les fois où il a vu son pote ne pas violer. En plus, il a une femme, des enfants, un lapin nain et celui-ci ne s'est jamais plaint. Voilà. En plus, le pauvre, il retrouvera jamais du travail. Alors que si, il y aura toujours des gens pour lui donner du boulot, hein, des gens aux valeurs tellement souples qu'elles peuvent s'auto-sucer. Ça me dégoûte vraiment. Ça me donne envie de vomir en jet avec une jet d'une telle intensité que si je visais le sol, je pourrais gagner le vent des globes sans toucher la flotte. Mais je ne dois pas m'énerver, je dois rester calme. Alors, je vais plutôt opter pour une chronique pédagogique et expliquer la culture du viol aux enfants. France, culture, viol, c'est parti. J'en profite d'être en France hein, pour le faire, parce que le viol, bon, c'est pas aux enfants belges qu'il faut expliquer ce que c'est.
Oh.
Alors, les enfants, la culture du viol, bah, c'est un peu comme la marelle. Les filles commencent jambes écartées et repartent à cloche-pied. Sauf qu'à la fin, c'est à elles qu'on jette le caillou. Non, pardon. Je veux dire que la culture du viol, c'est comme la marelle, parce que ça se passe par étapes. Une des premières étapes de la culture du viol, bah, ça peut être les blagues, hein. Comme quand tonton Jean-Marie raconte la blague de la madame chez le gynéco, hein, la madame qui se fait enculer. Se faire enculer, je t'explique pas ce que c'est, tu découvriras bien assez tôt quand tu commenceras à payer des impôts. Ça peut aussi passer par le jeu, hein, comme quand ton copain, dans la cour de récré, Timothy, il soulève les jupes des filles et qu'on dit que c'est pas grave parce que c'est pour rire, voilà. Mmh. Alors si on veut jouer avec toi à un jeu qui ne te plaît pas, eh bien tu dois le dire. Crois-moi, tu auras assez d'occasions plus tard de faire croire à un garçon que tu t'amuses, alors que c'est pas forcément le cas. Et c'est maintenant qu'on aborde un sujet important, celui du consentement. Alors les garçons, si vous nous écoutez, celle-là elle est pour vous. Le mieux, c'est imaginer un match de boxe, voilà, où il y a qu'un des deux boxeurs qui est d'accord. Voilà, c'est pas du sport, c'est de la violence. Ou pour continuer dans la métaphore du sport, et là Morgane, on est connecté. Il faut arrêter le squash, voilà, plutôt que de te forcer arrêter le squash plutôt que de forcer un mur à te renvoyer la balle, trouve plutôt quelqu'un pour jouer au tennis. Autre élément de la culture du viol, hein, bah, c'est le fait de minimiser. Les enfants, vous savez peut-être pas ce que ça veut dire minimiser, mais je vais pas tout vous expliquer non plus, prenez un dico bordel. Si par exemple Jean-Eudes, eh ben il mange tes pépitos, il y aura toujours des gens pour dire que c'est pas si grave. Bah si, c'est toujours grave, même si Jean-Eudes n'a pas mangé tous tes pépitos, mais juste léché la partie chocolat.
Oh.
Alors, avec ce qui se passe au gouvernement,
c'est drôle.
J'ai demandé.
Avec ce qui se passe au gouvernement, évidemment, tu t'imagines peut-être le contraire, mais Jean-Eudes, en fait, il mérite hein, d'être puni. Dans un monde parfait, le mec qui lèche tes pépitos, il devient pas délégué de classe. Voilà. Dernière chose à retenir, bah, c'est jamais, évidemment, de ta faute. Hein, toujours celle du mec qui te propose des bonbons dans l'espoir de te montrer les siens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet de nous apprendre que l'homosexualité n'est vraiment, vraiment, vraiment pas un choix. Auquel cas, après tout ce que les mecs nous font subir, je pense qu'on serait toutes lesbiennes depuis longtemps.
Voilà. Merci.
Et Florence, tu es tous les mardis la petite loge et le 12 novembre à Lagny-sur-Marne.
Je pense que c'est un mensonge. Je pense que Lagny-sur-Marne n'existe pas vraiment et qu'on m'a menti. Okay. Mais oui, j'y suis.
Voilà.
Si, ça existe.
Ouais,
va vérifier quand même.
Oui.
Ça a l'air très, très. Lagny-sur-Marne, c'est pas clair.
Bah, tu y vas et puis tu nous dis.
Voilà,
je dirais.
Méfie-toi, c'est peut-être un piège.
Mais oui, je pense.
Dans la bande originale, tout à l'heure, nous allons continuer, évidemment, et même maintenant, nous allons continuer de parler avec Raphaël Haroche de ce qu'il a publié. On va recevoir Baptiste Liger, j'espère qu'on prononce comme ça, qui est directeur de la rédaction de Lire Magazine Littéraire, justement pour évoquer l'exercice, entre guillemets, de la nouvelle, parce que vous vous êtes posé la question de savoir s'il fallait à nouveau continuer sur une nouvelle ou partir sur un roman.
Oui, je me suis posé la question. C'est vrai que les nouvelles sont pas très populaires en France, parce que c'est chez les Russes ou chez les Américains, il y a ça. Enfin, il y a Maupassant quand même, qui était un grand maître de la nouvelle. Après, moi j'aime vraiment ça, je trouve pas que c'est comme un court-métrage, voilà, par rapport à un long-métrage, je me dis pas, je suis un court-métragiste et un jour, peut-être, j'arriverai à faire mon film. Je pense que...
C'est un genre en soi,
Je crois que c'est un genre en soi et qu'effectivement, je sais pas, Maupassant ou Tchekhov, on fait que ça, quoi, et à peu près. Enfin, quelques pièces, quand même, de Tchekhov.
C'est
un petit succès.
Si vous êtes posé la question, ça veut dire aussi que l'exercice est totalement différent dans l'écriture, dans le rythme, dans votre gueuloir, vous vous êtes dit, ça... C'est trop lourd un roman.
C'est très long quoi. Ben alors là, je suis en train de finir un roman. Je pense parce qu'il peut y avoir.
Il peut y avoir dans un roman plusieurs histoires ou en tout cas plusieurs personnages avec différentes intrigues. On n'est pas obligé d'être que sur une histoire.
Bien sûr, un génie comme Kundera par exemple, il fait des romans avec des recueils de nouvelles entrecoupés de philosophie ou de passages ou de. Bien sûr, c'est polyphonique en fait. C'est vraiment ça. Alors qu'il y a les romans justement comme. Je sais pas, Flaubert, qui sont plus monophoniques, où on suit la même histoire tout le temps. Là, il y a plusieurs voix comme ça, où vous parlez de Carrère. Carrère, il y a toujours, souvent, deux histoires qui se superposent, quoi. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'au début, on comprend pas très bien le rapport qu'elles ont, et après, elles s'imbriquent. Mais, je sais pas. En tout cas, j'essaye de faire un roman. Je pense qu'il sera peut-être fini pour l'année prochaine, pour la rentrée prochaine. Mais, je dirais quand même que la nouvelle, en soi, c'est pas inférieur au roman. C'est autre chose, quoi.
Clairement.
C'est un... je sais pas, par exemple, quelques textes de Tchekhov ou de Joyce, qui sont des immenses écrivains, pour moi, c'est plus important que Guerre et Paix, quoi. Alors que c'est des petits textes de, ou des petites nouvelles de Kafka, là, à la fin. Enfin, des textes qui font 10 pages sont plus importants que les plus grands romans, aussi importants que Proust.
En 2000, la musique, évidemment, dans la vie de Raphaël. On a compris que vous écoutiez écrire, mais est-ce que vous écoutez de la musique en écrivant? Non.
Non.
Ça trouble la réflexion.
En tout cas, pas s'il y a des mots. Je peux écouter des instrumentaux classiques. Ouais.
Vous écoutez en 2000, justement, Elliott Smith, dont vous parliez tout à l'heure.
Ça fait un peu Beatles, non?
Classique.
C'est vrai que ça a tombé. Alors, pardon de l'interrompre, c'est malheureusement le principe aussi de cette BO, d'écouter des extraits, de se replonger en 2000.
En 2000, vous sortez votre premier album, oui. Raphaël, vous avez 24 ans.
Oui.
Ce premier album, c'est Hôtel de l'Univers. Vous êtes complètement libre, je crois, à ce moment-là. La maison de disques vous laisse complètement faire ce que vous avez envie de faire.
Ouais, c'est vrai.
Et ça, c'est important de souligner ça.
Ils m'ont toujours laissé totalement ce que j'avais envie de faire. Personne, j'ai jamais eu la moindre requête d'une maison de disques.
Même s'ils sont pas d'accord.
Ils ont toujours été à peu près d'accord. Ils écoutent, ils voient ce qui se passe et ensuite ils le mettent sur le marché. Après, ils ont plutôt toujours encouragé. Et ok, si c'est la direction, on t'accompagne dans la direction. Tu veux aller,
ils n'ont jamais été intrusifs au point de dire c'est pas dans le format du moment ou...
Non, j'ai jamais connu ça.
C'est plus inquiétant du coup de jouir d'une totale liberté pour un premier album.
C'est compliqué, ouais, c'est très compliqué, on sait pas où on va. Et puis le premier album, c'est comme un premier livre, il faut trouver son langage. C'est difficile de trouver son langage, de pas emprunter celui de quelqu'un d'autre, de savoir que ce qu'on dit est vraiment essentiel et n'appartient qu'à soi, ou en tout cas est important.
Et sur cet album, il y avait...
Non, c'est ça, c'est pas la même voix, c'est vrai. Bon, écoute, c'est comme ça. C'est difficile à entendre, c'est très bizarre.
Le temps a fait son travail. Ouais. Cet album vous a permis quoi? De faire votre bande, votre réseau musical, c'est-à-dire d'avoir des connexions d'un coup avec des Jean-Louis Aubert, avec les Pixies aussi, à l'époque où vous étiez en première partie?
J'avais fait des premières parties. Moi, le premier album, c'est pas mon... Je joue jamais de chansons de cet album sur scène, vraiment, depuis 20 ans, je l'ai pas...
Non, je veux dire, à l'époque...
Oui, c'était déjà... Effectivement, j'ai rencontré Jean-Louis Aubert. C'était une rencontre très importante, on est devenus copains, et puis ensuite, on a fait un duo sur l'album d'après. Enfin, c'est le début d'une grande histoire d'amitié qui se continue aujourd'hui. On se parle souvent, on se voit souvent.
Ça avait donné ça, ce duo.
Ouais.
Ça va encore plus loin d'être potes que de créer quelque chose ensemble.
Oui, faire une chanson ensemble, je sens qu'il avait été un gros succès. Et c'était très joyeux.
C'est comme faire un enfant ensemble?
Pas vraiment, non, je dirais pas ça du tout. Mais...
J'avais fait un enfant avec Jean-Louis Aubert.
Non, j'ai pas fait un enfant avec Jean-Louis Aubert. Non, c'est...
Attends, je regarde, j'imagine sa tête. Quoi, l'enfant?
Mais...
Je regarde sur l'écran.
Vous l'avez vu de
l'écran. Je regarde sur l'écran.
Et il apparaît, il est là. Et il entre dans cette pièce, Raphaël.
Ils font des trucs vachement technologiques dans cette émission.
Juste pour revenir au premier album, pourquoi vous ne chantez pas de chansons de ce premier album sur scène depuis plus de 20 ans maintenant?
Il y a une ou deux chansons que j'aime bien. La dernière, par exemple, elle me plaît beaucoup. J'avais fait avec Biolay à l'époque, on l'avait enregistré ensemble. Mais je dirais que c'est pas un disque qui me ressemble, quoi. Il a une énergie trop rock et puis il me semble pas proche de ce que j'étais par la suite, quoi.
2007, vous y écoutiez Salif Keïta.
Et puis cette voix, la voix elle me dérange quand même, là, de ce premier album. J'aime pas. Salif Keïta.
Non, attends, je veux revenir sur la voix. Tu parles de ta voix?
Oui, ma voix.
Mais pourquoi?
Qu'est-ce qui a changé?
Je sais pas, j'aime pas, je la trouve.
Trop haute?
Ouais, je sais pas, mal chantée.
Vous l'avez retravaillée entre temps
vraiment,
ou elle s'est imposée différemment?
C'est comme.
Le jean?
Non, c'est pas le jean,
Toujours
je pense que c'était un truc de. Un sentiment d'urgence de devoir dire ce qu'on a à dire très vite.
Ouais.
Du coup, je me pressais, c'est comme un acteur débutant qui boule son texte comme ça, qui envoie son texte au lieu d'être posé. Alors qu'après, on prend plus la maîtrise du temps.
Et pourquoi pas le réenregistrer?
Ben, si tu le produis, si
vous voulez. Sans problème.
Je ne sais pas. Mais sur scène, on reproduit, on réenregistre quand même, bien sûr.
Ouais, mais sur scène, tu ne veux pas les chanter.
Si, j'ai enchanté une là pour mon prochain concert, oui.
Salif Keita, donc, en 2007, c'est ce que vous écoutiez. Avec Cesaria Evora. Elle correspond à quoi cette musique pour vous?
Je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps en fait. C'est que mon fils devait faire un exposé sur une chanson métissée. Et je me suis souvenu de cette chanson qui me faisait... Je me rappelle à l'époque, il l'appelait Hotel Bamako. C'était vraiment la version d'Hotel California, mais malienne quoi. Et j'ai réécouté cette chanson avec la voix de Cesaria et la voix de... Là c'est Cesaria qui chante, et la voix de Salif Keita, et vraiment j'ai pleuré, en écoutant le truc j'ai été pris par une espèce d'émotion en me disant purée, c'est pour ça qu'on fait de la musique, en entendant ce genre de mélodie d'une beauté, je sais pas, ça me transperce le cœur quoi. Et du coup voilà, c'est magnifique, rien de plus beau que ça je trouve.
Et à cette époque vous participez à la tournée Les Aventuriers d'un autre monde.
Oui, et j'ai chanté avec Cesaria Evora, j'ai fait un morceau avec elle qui est jamais sorti, peut-être un jour, et je suis retombé dessus parce que je prépare un spectacle où je vais utiliser des magnétos à bande et des choses comme ça, des pistes de studio de mes 9 disques, et j'ai retrouvé cette chanson avec Cesaria et ça m'a replongé vraiment dans cette voix.
Comment une chanson peut ne pas sortir?
Eh ben, je ne me souviens pas. J'avais écrit une chanson, elle l'avait traduite, on l'avait chantée ensemble. C'était magnifique.
C'est fou.
Et elle s'est perdue et j'ai retrouvé dans un disque dur. Et pareil, alors, entendre la voix de Cesaria comme ça, là, j'ai refait un arrangement dessus ou réécrit.
Qui nous a malheureusement quitté, en plus, ça prend encore plus de poids.
C'est d'une beauté. Oh là là.
Et comment vous l'aviez rencontrée? Comment on se retrouve à faire un duo avec Cesaria Evora?
Par la maison de disques de l'époque, EMI n'existe plus, par le phone, dans la pyramide des rachats, le disque dur s'est perdu, il est réapparu. Voilà.
On va passer en 2016, où vous écoutiez, on reste dans les musiques, et le soleil de Caetano Veloso.
Às vezes no silêncio da noite.
Une voix de velours.
Merveilleux.
Eu fico imaginando nós dois.
Alors, est-ce que c'est la voix qui est de velours? Est-ce que c'est le portugais chanté comme ça? Parce que Vinicius de Moraes aussi, une voix de dingue, João Gilberto. Enfin bon, il y a toute cette musique-là très... la bossa nova aussi, c'est une caresse cette musique.
Ouais, c'est merveilleux. Et puis la manière dont il joue de la guitare, comme ça, c'est comme si c'était là, un mouvement du corps, tout bouge en même temps, c'est merveilleux.
Alors je ne comprends pas le portugais, mais on m'a toujours dit que c'était des poésies, les chansons.
Non, c'est sa liste de courses en fait.
Tu gâches tout.
C'est magnifique. Et puis ça fait penser un peu à Salif ou à Cesaria. C'est ces choses, c'est des chants d'oiseaux quoi. Et puis c'est totalement dédié à l'amour, c'est totalement. Je sais pas, mystérieux et lumineux en même temps, c'est d'une clarté incroyable. Ça se plaint pas,
c'est bizarre
célébrer quelque chose.
De dire ça sans comprendre les paroles. C'est ce que...
Je sais que si je comprenais, je serais d'accord avec ce qu'il dit. Je sais que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Totalement.
On va évoquer. C'est
joli.
On va évoquer deux années, 2016 et 2017. 2016, c'est une nomination au César pour la meilleure musique originale pour les Cowboys. Et 2017.
Attends, je l'ai, les Cowboys.
Ah voilà.
Mais tu peux continuer d'évoquer ce film.
Ça, c'est aussi un autre travail de composer une bande-son.
Ouais, c'est magnifique, c'est merveilleux. Déjà, c'était un très beau film magnifique de Thomas Bidguin. Et puis ensuite, c'était vraiment me laisser faire un vrai score, pas une partition de chanteur. Donc j'étais au studio Guillaume Tell avec un orchestre de 70 personnes, moi qui lis très, vraiment difficilement la musique. C'était très étrange. À la fois, je me sentais illégitime, mais en même temps, c'est merveilleux d'entendre 70 musiciens qui font sonner ce que vous avez écrit.
Ouais, c'est une vraie responsabilité aussi. Hein.
Oui. Après, il y avait un chef d'orchestre qui avait. C'est pas moi qui me suis mis à faire des gestes, sinon ça aurait tourné très court. Mais vous
l'aviez composé sur un clavier.
Sur un petit ordinateur, un petit clavier, comme ça, c'était lignes mélodiques. Et après, j'ai travaillé avec un arrangeur qui m'a aidé à harmoniser, à faire tout ce que j'ignore, il y a tellement de trucs.
Parce que un orchestre philharmonique ou symphonique, c'est une véritable armée, et chaque régiment doit savoir ce qu'il doit faire, tout ça pour aller en parfaite harmonie.
Ouais, c'est magnifique, c'était une grande chance de le faire une fois, quoi.
Et c'est trouver un langage, là aussi, une autre forme de langage.
Oui, oui, c'est vrai. Après, c'est vraiment servir le film complètement, quoi. Donc, on faut oublier tout égo et se dire, voilà, on n'est pas là pour faire des grandes mélodies ou des choses comme ça, mais pour aider à l'émotion d'une scène ou pour... bon, c'est autre chose, mais c'est... je l'ai fait pour deux personnes. Je l'ai fait pour Thomas Bidguin et pour Samuel Benjetrit. Et à chaque fois, c'est des super amis, des gens que j'aime, avec qui je passe du temps. Enfin, c'est comme des frères. Donc, je peux passer un an à travailler sur la musique d'un de leurs films. Ça, ouais, ça me va très bien.
Vous parliez de légitimité ou de sentiment d'usurpation pour faire la musique d'un film. J'imagine que pour écrire le premier livre de nouvelles, ça devait être le cas aussi, de ce savoir attendu par le monde littéraire, que ce soit votre éditeur, que ce soit les lecteurs, et évidemment, les critiques qui attendent toujours gentiment au coin de la rue avec un petit couteau pour tailler les veines de l'auteur en disant voilà, c'était qu'une erreur ou qu'un scandale, le premier était un succès, c'était pas le cas. Vous êtes jamais posé cette question?
J'ai pas trop vu ça dans la littérature. Ouais, j'ai l'impression que c'est tellement il y a tellement de livres à lire et il y a tellement peu d'espace pour en parler que prendre cet espace pour défoncer quelqu'un, ouais, c'est quand même un peu con, quoi. Donc la plupart des gens qui parlent d'un livre, c'est parce qu'ils ont aimé et ils disent des choses vachement intéressantes, ils l'écrivent en règle générale très bien. Les mecs qui sont critiques littéraires, c'est des intellectuels, quoi.
Donc, ils savent écrire déjà.
Ils savent écrire très bien, et ensuite ils sont vraiment là pour. J'ai l'impression qu'ils parlent de ce qu'ils aiment, quoi.
Et pour savoir écrire, il faut savoir lire aussi. On l'a compris, vous êtes un lecteur avant tout.
Pas tant que ça, je lis pas beaucoup.
En tout cas, toutes les références que vous avez.
Maximum.
Les références que vous avez.
C'est au-dessus de la moyenne, hein.
C'est des tout petits livres. Je vous ai montré le livre d'italien que j'avais. Il fait, c'est quoi, 15 pages.
Surtout que vous ne parlez pas encore l'italien.
Oui, exactement.
C'est pour ça que c'est long.
Mais s'il parlait italien, elle aimerait.
Exactement, c'est exactement ça.
Bonjour Baptiste Saliger, merci.
Bonjour Nagui.
De venir à ce micro, directeur de la rédaction de Lire, magazine littéraire. La définition d'une nouvelle, est-ce que c'est comme un court-métrage? C'est-à-dire que c'est calibré? Une nouvelle ne doit pas dépasser un nombre précis de pages?
Non, absolument pas. Il n'y a aucune définition, qu'elle soit technique ou juridique. D'ailleurs, il y a plusieurs termes qui peuvent relever de cette forme courte. On parle de fable, on parle de conte, on parle de nouvelle. Au départ, on voyait de véritables différences. On disait que le conte était un petit peu plus moral, la fable un peu plus allégorique. Mais on s'aperçoit au fil du temps, au fil de l'histoire, que en fin de compte, ces frontières se sont véritablement abolies, encore une fois. Donc parlons plutôt d'histoire courte. Voilà, après le nombre de pages reste à déterminer, bien sûr.
Est-ce que les histoires courtes, si elles ont des points communs, des personnages qui se retrouvent, là on commence à passer dans un autre domaine.
Ça peut être
un recueil de nouvelles.
On peut passer au recueil de nouvelles, ouais. Ou alors on va certainement l'évoquer, le fait que le recueil nouvelle ne se porte pas forcément très bien en librairie, c'est pas un genre très vendeur, donc certains éditeurs parfois se disent, bon, on va bricoler un petit peu, on va mettre des personnages récurrents, on va remettre des petites choses qui reviennent ci et là, on va lier les nouvelles, on va dire, oh, là c'est un roman, là ça sera irréprochable et beaucoup plus vendeur en librairie, et là ce qui tente de dénaturer parfois un petit peu les textes.
Oui, alors mais pourquoi justement la nouvelle n'est pas un genre aussi célébré que le roman en France?
Encore une fois, intellectuellement il est célébré.
En France, tu l'as dit tout à l'heure,
c'est le cas
étranger. Alors j'allais dire, à l'école, on étudie encore à l'école, à l'université, les nouvelles, on en fait aussi écrire dans les ateliers de création littéraire, il y a beaucoup de concours de nouvelles en France, amateurs, qui donnent parfois des textes formidables, il y en a énormément.
Mais en librairie,
il y a un petit problème. On a peut-être des réflexes psychologiques à se dire, on va lire plusieurs histoires, alors on se dit peut-être, une est bien, l'autre n'est pas bien, etc., etc. Ou peut-être, il y a aussi, dans l'acte d'acquisition en librairie, le fait de ne pas savoir trop vers quoi on va, d'une certaine manière. Il n'y a pas un thème, il n'y a pas une histoire à proprement parler. On peut jouer sur la notoriété de l'auteur, mais malgré tout, je pense que c'est un petit peu fluctuant, ça nous glisse entre les doigts et ça fait peut-être un petit peu peur à l'acquéreur d'ouvrage.
Il faut quand même qu'il y ait un point commun, enfin qu'il y ait du lien entre les différentes nouvelles pour faire un recueil de nouvelles. On ne peut pas passer d'une nouvelle fantastique à une nouvelle...
Pas forcément. Ouais. Nagui, le lien, est-ce que ce ne serait pas le lecteur qui le fait dans sa tête, parfois, d'une certaine manière? Est-ce que ce n'est pas lui qui se dit, ah bah tiens, en fin de compte, je vois une perspective d'auteur à travers ça? Par exemple, vous avez des
Dans le livre de les nouvelles de Raphaël Roche, que ce soit le premier ou ce nouveau recueil, j'ai quand même le sentiment,
il y a une unité,
il y a une unité, et puis il y a pas de cliffhanger avec d'accroche en disant on va vite tourner la page pour voir la nouvelle suivante, qu'est-ce qui va se passer, et pourtant quand on sort d'une histoire avec l'émotion qui nous a envahi, on a hâte de replonger dans une autre histoire parce qu'on est justement caressé par la même
Mais c'est ça qui est un petit peu émotion. Qui est vraiment fascinant dans la lecture d'un recueil de nouvelles, c'est qu'on peut choisir de n'en lire qu'une, oui. plusieurs à la suite. On a même le choix de l'ordre des oui. nouvelles. Vous parlez du cas de Raphaël. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans ses travaux, c'est l'atmosphère, le travail de l'atmosphère. C'est ça qui nous marque d'une certaine manière. Il y a un bain. Il ne fonctionne pas sur des narrations, j'allais dire extrêmement précises, rigoureuses, très techniques. Non, non. Il nous laisse
un
petit peu
de précision,
manque de rigueur.
Non, pas du tout. C'est pas du tout ça.
On en a déjà parlé.
Il y a une
Raphaël, c'est vraiment ça. On est dans l'atmosphère, on est dans l'univers. Et justement, encore une fois, non, mais il y a différents types d'écriture. Par exemple, Modiano, c'est un écrivain d'univers, d'une certaine manière, et d'atmosphère, au-delà d'intrigues, j'allais dire, vraiment au cordeau, d'une certaine manière. Non, avec Raphaël, on est là-dedans et on aime flâner dans ces histoires.
Ah, clairement. Il y a des grands auteurs, des grands noms du monde des nouvelles. On en a évoqué, tout à l'heure quelques-uns.
Ah, oui, bien sûr. Évidemment, en France, on a Maupassant, on a Flaubert qui a fait quelques bonnes petites choses, évidemment. Mais c'est vrai que les anglo-saxons ont repris cette tradition. Au départ, les Français, on était très bons, on en a retrouvé un petit peu après. Edgar Allan Poe, dans le domaine du fantastique. Parce que très souvent, il se trouve que la nouvelle fantastique, entre ces deux entités, ça fonctionne bien.
Kafka
Kafka, bien sûr. Mais Stephen King, pour revenir à des écrivains très populaires, mais lisez des nouvelles de Stephen King, qui ont été souvent portées à l'écran. Mais c'est d'une précision de narration, un art de la chute.
Ah, lui, il est précis. Ouais, lui,
c'est précis. Incroyable. Et l'air de rien. Précis, ouais. L'air de rien, Stephen King, on se dit, c'est un écrivain parfois populaire. Encore une fois, dans le mauvais sens du terme. C'est comme ça qu'on l'a vu pendant très longtemps. Mais quelle maîtrise
Je me demande d'ailleurs
de la narration.
Si Amok, 24 heures de la vie d'une femme, le joueur d'échecs, n'était pas dans des nouvelles de Zweig aussi.
S'il y a des recueils de nouvelles, c'est ça.
C'est des nouvelles.
Absolument.
Merci beaucoup, Baptiste Ligier. Je rappelle, lire le magazine littéraire dont vous êtes le rédacteur, directeur de la rédaction. Voici le héros du jour, Monsieur Daniel Brun.
Oui, bien sûr, les amis. Alors, mon héros du jour aurait pu être une barquette. Oui, absolument, une barquette. Pas un homme, pas une femme, une barquette. Okay. Une barquette d'apéricube.
Ah ouais.
Eh oui, car en vérité, c'est quoi l'apéricube ?
Ça existe.
Un petit bout de crème de fromage carré qu'on met 40 secondes à ouvrir et 2 secondes à becquer. Non ? C'est plus que ça. L'apéricube, les amis, l'apéricube, c'est la vie. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est l'apéro. Qu'est-ce qu'un apéro sans apéricube ? C'est une entame de soirée triste et sans relief. C'est une fête sans musique, c'est un film sans acteur, c'est un chien sans bave, c'est un lamanoukian sans poil. L'apéricube nous donne la joie, nous donne l'espoir, nous donne la foi. Un espoir goût de tomate, un espoir goût olive, un espoir goût noisette, un espoir goût... caca. Non, paprika. Un espoir goût saumon.
Mon préféré.
Pardon. L'apéricube, c'est toute une farandole de saveurs dans 1 cm3 de pâte salée qui apporte calories et rêves dans nos bouches blasées. Et pourtant, mon héros du jour n'est pas l'apéricube. Non, ce n'est pas le fantastique apéricube, Nagui. Non, mon héros du jour, c'est le vin. Le vin français qui, cette année, est moribond. Cette année, la production a chuté de 27%. Les rois du Cuby vacillent, les caves se sont tenues, chez Nicolas on tremble. Moins 27%, c'est une catastrophe. J'en appelle donc à Julien de Normandie. Monsieur le ministre de l'Agriculture, cher Julien, il faut venir en aide au pinard, mon Juju. Moins 27%, rendez-vous compte, monsieur le ministre. Si ça, c'est pas un des prémices de l'apocalypse, qu'est-ce que c'est ? La France sans picrate, c'est quoi ? C'est la Belgique ? Bonjour du cadeau. Monsieur le ministre, j'en appelle au sens civique et œnologique du patriote de la grappe que vous devez être. Déclarer sans attendre la production de vin comme une grande cause nationale. Défricher les champs de blé, de maïs, de colza et autres tournesols. Arracher tout pour y planter de la vigne. Sinon, comment accompagnerons-nous nos fromages ? Avec de l'eau gazeuse ? Quelle horreur ! Comment sublimera-t-on nos plateaux de charcuterie ? Avec du Fanta citron ? Quel massacre ! Comment le curé boira-t-il le corps du Christ avec un calice de Schweppes ? Quelle infamie ! Monsieur le ministre, vous avez le pouvoir de sauver notre plus bel étendard, mon héros du jour, le vin français. Vous pouvez sauver notre identité nationale tricolore, à savoir le rouge, le blanc et le rosé. Vive la France !
Merci Daniel Bond. Bonjour Tanguy Passereau. De quoi parles-tu aujourd'hui ?
Je vais vous parler du député LAREM Loïc Dombreval, qui est super, c'est mon loulou, hein, parce qu'il propose une loi disant qu'on pourrait se faire enterrer avec son chien. Et ça, c'est une bonne idée, parce qu'on adore les chiens.
Ça me fait penser à Bowie, qui est le nom d'un chien dans Une éclipse, le recueil de nouvelles de Raphaël Haroche, qui est notre invité jusqu'à 12h30. Je le rappelle, Une éclipse est publiée chez Gallimard. bande originale avec les lacs de Morgane Gabinan, Florence Fendès, Tanguy Passion, Daniel Morin et notre invité Raphaël Roche. Avec une éclipse, ce nouveau recueil de nouvelles. Raphaël, on vous a fait la remarque de dire qu'il fallait, dans le monde littéraire, prendre votre nom de famille, ou c'est un hommage que vous vouliez aussi rendre à votre famille, à votre papa, qui est également auteur.
C'était pas vraiment... C'est juste que... Il n'y a pas d'écrivains qui ont juste un prénom, je crois pas. Donc je me suis dit que...
Céline ?
Ben non, c'est Louis-Ferdinand Céline.
Il y a Dev.
Alors,
du coup, je me suis dit...
Voilà.
Merci beaucoup. Et du coup, je me suis dit que... C'est en plus la série blanche.
Donc c'est un problème de légitimité, en fait.
Je sais pas, de comme ça, l'espèce de prestige de l'uniforme de cette série blanche de Gallimard qui est magnifique, qui est un peu le Graal des livres. Je me suis dit, je vais mettre mon nom complet d'état civil. Et puis souvent, quand on met pas son nom comme chanteur, c'est parce que c'est un nom qu'on choisit justement très jeune. À un moment donné où on a envie de, je sais pas, de brouiller les origines et de pas, comme ça.
L'idée d'un pseudo, parce que c'est également ce qu'a fait votre papa, il a pris un nom d'emprunt pour écrire.
Si j'aurais dû prendre un nom
d'emprunt. Non, est-ce que vous avez pensé? Est-ce que ce sont des questions qui se posent ou pas? Bon, pour se protéger de comparaison, pour dire, bah tiens, je vais publier sans dire qui publie, finalement, pour être jugé uniquement sur le fond et pas spécialement sur l'image.
Non, mais j'aime bien juger un peu sur l'image aussi, profiter un peu.
Ce serait dommage de
c'est déjà super difficile.
La notoriété, ouais.
C'est déjà si. Après, sinon, ouais. Non.
C'est déjà difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que vous attendez?
D'être lu. Non, moi j'attends. Je suis très heureux. Je veux dire, je suis content d'être reçu, de pouvoir parler de mon livre, et je sais que c'est une chance que j'aurais pas si c'était mon premier livre et que je sortais du chapeau,
Le point commun entre l'auteur de chansons et l'auteur des nouvelles, il y a quand même une part d'obscurité, mais l'éclipse va bien si on va par là. C'est-à-dire qu'il y a des moments très obscurs, mais aussi très lumineux.
Oui, moi je dirais que c'est la même personne quand même, c'est un peu la même chose. J'aime bien faire des livres, je me dis... comme ça, mais je sais pas ce que mes enfants connaîtront de moi, par exemple, ils le connaîtront peut-être intimement à travers les livres. C'est différent. On a plus d'espace. Alors, ça me plaît comme ça. Là, c'est une trace de ce qu'on a été à un moment.
Il y a beaucoup de révélations sur qui vous êtes ou votre vécu dans ces qu'il faut. Je sais pas. Il y a des nouvelles codées.
Il y a des vraies histoires, et les gens qui me connaissent très bien, ils les lisent forcément, ils voient la part autobiographique.
La source,
voilà. Ouais. Mais après, c'est pas du tout de l'autofiction, il y a plein de parts avant, tout est détourné, changé, modifié, c'est des mutants, les nouvelles, et souvent les romans, sauf peut-être effectivement Emmanuel Carrère qui fait vraiment l'autofiction, qui en fait génialement, mais qui fait ça. C'est avec des lambeaux de la réalité, on fabrique quelque chose quoi, qui est complètement différent et qui est une nouvelle chose.
De traces à laisser à vos enfants, vous avez pensé écrire une autobiographie?
Non, je crois pas. Mais par contre, là, j'écris un roman, et peut-être c'est un truc un peu, ça parle de l'adolescence, donc peut-être que ce sera
plus proche de ce que vous avez vécu, oui.
Non. Alors rien du tout. Un truc que je connais pas du tout. D'accord. Dans un univers que je connais pas. D'accord. Du tout. Non, j'ai besoin un peu de m'éloigner de ce que je suis, sinon ça devient un peu.
Ah, mais dans ce cas-là, il faut se documenter, il faut s'intéresser, rencontrer des personnes pour pas non plus raconter n'importe quoi.
Bah, on peut raconter n'importe quoi, moi je pense, mais c'est pas documentaire du tout. C'est comme un, ça a la texture un peu du conte. Je pense qu'on, c'est pas du tout un. Je sais pas, James Ellroy, quand il fait un polar, il est obligé de se documenter d'une manière très très précise.
Bah pour être crédible aux yeux de ceux qui savent de quoi ça parle, quoi.
Oui, il y a une mécanique. Moi, quand toute l'histoire est complètement inventée, après, on doit rendre des comptes à personne, je crois.
Ça s'appelle Une éclipse, publié chez Gallimard. Le nouveau Raphaël Haroche avec nous jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Passe.
Aujourd'hui, les loulous, je vais vous parler de la mort. Oui, la mort, cet événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie, comme la circoncision ou le fait de regarder Salto parce qu'on a eu une offre d'essai. La mort est un concept étrange. Parfois, on est là, tranquille, on achète une baguette ou la nouvelle Porsche 911 si on est au PSG, quand soudain, tac, un truc claque et on tombe la tête la première sur le volant de la Porsche ou sur la boulangère. Hein, ce qui est mieux, on peut, avant de crever, sentir le parfum des chouquettes sur sa nuque et murmurer « En fait, je t'aime, Josie », ce à quoi elle répond « C'est 2h30 ». Enfin, un bel échange humain, quoi. Alors ensuite, il y a deux visions de la mort. Soit vous pensez qu'après, il n'y a rien, on vous fout dans la terre et de petits vers s'écrit « Les enfants, ce soir on sort, au menu, on a Jean-René Sanchez, dit Seita, il a clopé sur 37 ans, donc c'est de la viande fumée. » Soit vous pensez qu'après la mort, on se retrouve tous au paradis. Deux anges viennent vous choper par les aisselles, vous avez beau crier que ça chatouille, ils vous posent sur un nuage et là, c'est la fête, vous entendez « Ça va, motherfucker », vous vous retournez, il y a Tupac, Notorious B.I.G. et Charles Pasqua qui s'enjaillent. C'est pour ça que moi, je ne parle pas aux gens de l'équipe ici, parce que je sais que là-haut, on aura l'éternité pour discuter. En même temps, si je croise David Bowie, je suis pas sûr que je me battrais pour parler à Daniel Morin. Oh. Et puis, ça voudrait dire que Daniel Morin est mortel. Ce que je ne crois pas, son look nous montre bien qu'il a traversé les époques. Chez ces lieux, on l'appelle Highlander. Tout ça pour vous dire qu'on finit tous par mourir. Et même à ce moment-là, on veut pas être seul, car personne n'est fait pour être seul. Donc on a envie d'être enterré avec un proche. Moi, à ma mort, je vous fous avec moi, Nagui. Hein, si on n'est que deux, je gagnerai peut-être enfin le blind test. Même si vous êtes encore vivant, alors j'ai donné de l'argent à la mafia tchétchène, ils vous choperont, vous crierez « Mais enfin, aujourd'hui, j'enregistre 80, n'oubliez pas les paroles, de taratata et j'ai un projet de fiction. Vous croyez vraiment que j'ai le temps de mourir ?» Et ils vous colleront dans mon caveau. J'ai déjà l'idée de l'inscription, il y aura gravé Tanguy Pasturo, 1974-2075, j'ai battu Drucker, hein, sur la pierre tombale. Non, alors en fait, je plaisante, Nagui, je vous laisserai bien sûr, car vous n'êtes pas mon être vivant préféré. Non, je préfère les cèpes, parce qu'ils sont bons en omelette, eux. Deux, Damien Thévenot de France 2, hein, pour son hygiène bucco-dentaire, je pense que pour se laver les mains, il n'utilise pas de gel, il frotte ses doigts sur ses dents, et hop, ils sont désinfectés. Enfin, trois, les chiens. J'adore les chiens. Mais petit souci en France, il est interdit de se faire enterrer avec son chien, parce que ce serait ridicule. Hein, on aurait des tombes avec écrit Martine et Yuki. Au pied de la pierre tombale, il y aurait des fleurs et un poulet en plastique qui fait pouette. Mais bon, on est déjà ridicule ici sur Terre. Hein, je veux dire, il y a toujours quelqu'un en doudoune sans manche, fan de Vincent Niclot, pour nous rappeler que dans le grand escalier de la vie, on a raté la marche de la dignité. Donc on devrait pouvoir se faire enterrer avec Titus, Minouche ou Aïe purée, t'as pris cher, le chien de Kim Kardashian, qu'elle a appelé comme ça en voyant l'état du Yorkshire, les fois où elle s'est assise dessus. Heureusement, un député de La République En Marche, ces gens qui sont 268 et qui après les prochaines législatives seront 3, a fait une proposition de loi. Loïc Dombreval, c'est son nom qui au départ est vétérinaire, propose que la loi permette de se faire enterrer avec son animal de compagnie. Il explique que l'animal de compagnie tient une place à part dans la famille, ce qui est vrai. Il est au centre de tout. Je rappelle qu'on lui sert à boire et qu'on ramasse ses crottes. Enfin, même Louis XIV avait un quotidien moins cool. Certains couples, dit le député, pensent même avoir un chien avant d'avoir un enfant. Ah bah c'est un meilleur plan. Hein, jamais à 18 ans, un berger allemand plein de boutons vous dira « je quitte la maison » après avoir squatté la télé pendant des années pour mater les Pokémon. Le chien, contrairement à l'enfant, est fidèle. Et en plus, on peut le caresser sans finir en tôle. Donc chien, 12 points. Enfant, 0 points. Mais le député explique aussi que les seniors, ces gens qui kiffent France 3 et la salade de museau, ont souvent pour seul compagnon un animal. Les enfants sont partis, les voisins sont morts. À la suite d'une fête des voisins, ils se sont rendus compte qu'ils vivaient entourés de cons, donc ils ont mis fin à leur jour. Hein, tout ce qui reste, c'est un chat qui a l'avantage d'être constant. Vous lui dites ça va, il fait miaou. Hein, vous lui dites purée, l'affaire Jean-Luc Lay, je l'ai pas vu venir. En chanson, il reste plus que Julie Pietri maintenant. Il fait miaou. Hein, et très souvent, on finit notre vie avec un chat, un chien, un furet. Et quand Anne Hidalgo mourra en 2022 d'une attaque le soir du premier tour en apprenant qu'elle a réuni 0,8% des voix, des pigeons éclopés lui feront une haie d'honneur, tandis qu'un rat déposera de manière symbolique au pied de son corps un emmental. Oui, la relation entre l'homme et l'animal de compagnie est la plus forte qui soit. Et pour l'ego, c'est formidable. Vous rentrez le soir, votre chien est heureux, il saute, alors que votre femme, vous pensez qu'elle vous applaudirait en criant « Bravo bébé pour cette journée ! Je veux un P, je veux un A, un U, un L, un O, ça c'est mon polo !» Ah non, seul un chien fait ça. Ou un sanglier en forêt, mais quand il vous saute dessus de joie, il vaut mieux avoir fait avant de la salle de sport. Bref, cette proposition de loi qui nous autoriserait à nous faire enterrer avec les cendres de notre animal de compagnie est bonne. À part pour Brigitte Bardot, parce que si on enterre ses 112 bêtes avec elle, ça va prendre tout le cimetière de Saint-Trope, il va falloir relocaliser Eddie Barclay sur Ramatuelle, enfin, truc pas possible. Donc bisous et ouf!
Merci, Tanguy Passion.
Et Tanguy, tu seras le 18 novembre à 800, près de Chartres.
Oui.
L'enchaînement est tout trouvé avec une nouvelle dans une éclipse, donc le recueil de nouvelles de Raphaël Laroche avec Bowie. Comment avez-vous osé nommer un chien Bowie? Bowie
un hommage.
Étant... Pardon?
Un hommage.
Un hommage, non, il va se faire piquer le chien dans la nouvelle.
Ouais, c'est une.
Et vous dites dans les interviews que la disparition de Bowie, ça a été pour vous comme la fin de l'adolescence ou fin de la légèreté.
Très tardive, mais oui, c'est vrai, ça m'a. Il me paraissait un peu immortel, quoi.
Ouais.
C'est vrai, il était toujours tellement magnifique comme ça. Et je sais pas, l'idée, c'est un couple qui s'est pas vu depuis longtemps. Ils ont acheté un chien un jour. Le jour du Blue Monday, et puis ils se retrouvent parce que le chien, il faut piquer le chien, donc...
Oui, c'est un prétexte dans la séparation du couple pour revenir, en plus elle joue avec son peignoir...
Elle allume un peu, et puis elle a un nouveau mec qui s'appelle David, d'ailleurs.
Voilà, la vanne va loin, et puis on peut... Continuons dans la vanne sur David Bowie. On a beaucoup parlé de Jean, mais pas de Jean Genie pour l'instant. Voilà, ça c'est fait, donc fallait la faire.
Oui.
Il fallait le faire. Ou pas. Ou pas. On n'était pas obligé. Il y a le côté aussi soi-disant bricoleur. C'est dans la même nouvelle, non?
Non,
le...
c'est une autre nouvelle.
Une relique.
C'est ça. Ils ont un copain qui est plombier, qui est surtout un peu au chômage, et qui aide à bricoler.
Elle est dingue. Elle est dingue, cette histoire. Elle est terrible. Et surtout la chemise avec le billet de 100 euros.
C'est un copain, mais qui bricole très très mal.
C'est un copain, il est tendre, il est sympa, il est un peu dans la merde, donc
on accepte tout.
Bricole et sa femme, avec qui déjà ça va pas très bien, l'engueule en disant il y a toujours de l'eau qui stagne, dégueulasse, c'est ignoble, en plus tu payes cher, t'es vraiment,
tu te fais avoir par ton pote qui n'est pas plombier.
Et donc elle insiste pour qu'il finisse les travaux, et ce jour-là le mec dit mais moi je me sens pas très bien aujourd'hui, et c'est un mec en plus hypochondriaque, qui est sympa, mais il est toujours à simuler un truc d'essoufflement, j'ai mal quelque part, il le force un peu à venir, et il va se passer un drame.
C'est marrant parce que vous mimez l'essoufflement en vous tenant la hanche.
Je sais pas, c'est parce que j'ai un peu mal à la hanche. Effectivement. Je fais des cours de karaté, je suis ceinture jaune et je me suis fait mal à la hanche.
T'as compris? T'es calmé?
Ok, je me tais.
Raphaël Laroche signe une éclipse chez Gallimard. D'autres événements culturels. Leïla Kadrou-Dadi.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Non, j'ai dit culturel.
Ministre de l'économie et auteur à 16 heures perdues. Vient d'annoncer que prochainement, un écrivain célèbre allait dans un nouvel ouvrage défendre l'industrie française. Qui est cet auteur d'après vous?
Marc Lévy.
Non.
C'est un politique?
C'est un
Michel
auteur
Houellebecq.
Absolument. Mais c'est Houellebecq. Absolument. Il devrait dans un prochain roman parler un peu de la capacité de production de la France.
On va se marrer.
Qui défendra donc l'industrie. C'est un peu étonnant.
On lit Houellebecq pour se marrer.
C'est un peu étonnant comme thème. Il faut voir ce que ça peut donner à partir d'un sujet peut-être un peu improbable. On peut arriver à faire quelque chose d'intéressant.
Je suis sûr que vous aimez Houellebecq.
J'adore.
Évidemment.
C'est un génie.
Ça fait partie. Houellebecq fait partie des auteurs contemporains que vous suivez à chaque publication.
Oui, comme Carrère, c'est des immenses écrivains, c'est les maîtres.
Et qui lisez-vous en
Modiano,
ce moment
Le dernier livre de Modiano, c'est une merveille, incroyable. Oui, j'ai lu aussi un livre d'une écrivaine qui s'appelle Maria Pourchet, qui s'appelle Feu, j'adore aussi.
Alors il faut commencer par lire Champion, après il faut enchaîner avec Les Impatientes, Rome en un jour, et Feu, c'est merveilleux.
Quand vous lisez à haute voix, comme quand vous relisez.
Ah non, les livres d'autres gens.
Vous lisez avec le doigt, vous suivez la ligne
Non, ça va, pas encore.
Autre question, un nouvel album du Wu-Tang Clan, Once Upon a Time in Shaolin, apparu récemment dans l'actualité, a une double particularité. De quoi s'agit-il?
Il n'existe que en numérique.
Il n'existe qu'en vinyle. Non,
il n'existe pas.
Il n'existe que en cassette BASF C90 ferrochrome.
Non, c'est pas le support qui compte.
Ah, c'est quoi alors? Il n'y a qu'une chanson.
Ouais, très peu haute. C'est-à-dire 10.
Non, 10 000 à Lyon.
Non,
1000.
Bah, un seul.
Un seul. Très bien.
Il y a un artiste qui ont fait ça.
Ça, c'est la première particularité.
Ah bon ouais. Qui?
Du coup, ils le vendent très très cher puisqu'il n'y en a qu'un.
En gros, c'est exactement ça. Et en fait, c'est un album qui a été donc produit à un seul exemplaire qui vient d'être acheté par des collectionneurs d'art NFT pour 4 millions d'euros. Il y a 31 titres en fait qui ont été enregistrés entre la fin des années 2000 et le début des années 2010 par le groupe. Et au début, à cette époque-là, quand ils ont lancé cette idée, ils se sont dit que c'est un album qui ne vendrait pas avant 88 ans, soit 2103. Comment on le dit 2100, 2103, avant l'année 2103. parce qu'il voulait dénoncer la marchandisation, le fait qu'on sorte des albums régulièrement, que ça se vende, qu'il y ait des contrats, tout ce que vous voulez.
Et pour dénoncer la marchandisation, ils finalement, en sortent un très cher.
Ils en sortent qu'un seul.
Et, bien joué, les gars.
Et celui-ci, ils n'ont pas attendu 88 ans, ils se sont dit, allez, on va le faire avant.
Oh, les Che Guevara du Sillon.
4 millions d'euros, c'est absolument.
Mais non.
Mais si, 4 millions d'euros, un seul exemplaire.
C'est une légende. Ouais,
un
mais
seul exemplaire.
Mais est-ce que celui qui l'achète a les droits d'exploitation du disque ou pas du tout?
Alors ça, je ne sais pas.
Je pense pas.
Ouais, je pense pas. Je pense que c'est juste l'objet.
C'est le seul qui peut juste écouter, en fait. C'est
tout. Est-ce que vous avez un côté
attends,
collectionneur?
Juste pour ce, alors, le temps que tu réfléchisses à ta réponse, ouais. Quand même, pour resituer le son du Wu-Tang Clan, on voit ce que c'est. Ce n'est pas les, on n'avait pas les moyens
de l'album unique.
Donc ça, c'est un vieux.
Avec des samples de vieux titres de soul incroyables à l'époque.
Est-ce que vous avez des disques rares à la maison? Est-ce que vous êtes collectionneur?
Pas du tout. Mais j'ai vu le Wu-Tang Clan en concert une fois. C'est un sacré truc. Ils sont forts.
Mais vous collectionnez rien au-delà de la musique? Il y a des objets en particulier que vous aimez bien?
Ah oui, j'adore les meubles. J'adore les tableaux. Je collectionne beaucoup. J'adore les objets.
Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi.
T'es fan.
Non, je voulais entendre là, le train du soir.
Quand on a des invités comme Bob sur un album, comment on fait des concerts? On leur demande s'ils sont libres du 17 au 27 mars 2022 au Théâtre des Moufs?
Non, on se démerde autrement, ce sera autre chose. Non, c'est des moments, c'est merveilleux. Après, c'est trop compliqué, trop contraignant, mais c'était merveilleux de pouvoir chanter avec elle, ou il y a un morceau avec Clara. C'était des rencontres, des soirées délicieuses, enfin, c'était super. Qu'elle habite au Canada beaucoup, Pam, donc elle est pas la souveraine.
Ah d'accord, je savais pas. Quand vous serez sur scène donc pendant cette dizaine de jours, là aussi c'est 10 dates exceptionnelles. Oui. C'est la volonté de un peu façon art contemporain de limiter, de pas partir en tournée pendant un an et demi.
Ah, non, je vais partir en tournée. Après c'est le théâtre des Bouffes du Nord qui est très beau, quoi. C'est vraiment un endroit. Ouais. Magique où on a envie de faire proposer autre chose, un peu plus théâtral peut-être, très acoustique. Je dirais que c'est un à mon avis ça va être à l'os, ça va être assez dépouillé, et visuellement j'espère que ça va être très étonnant. Vraiment. Faire quelque chose qui a jamais été fait, c'est ça que j'aimerais bien faire.
Ouais. Et puis, on entend la participation de Clara Luciani, qui vous a longtemps accompagné sur scène. Vous l'aviez évoqué en venant tous les deux dans Taratata. Oui. Et puis, vous êtes un fidèle de Taratata. Oui. Je tiens à vous le dire et à vous remercier pour cette fidélité. Et on a un zénith que l'on va enregistrer la semaine prochaine, où vous allez créer un duo avec Feu Chatterton.
Oui.
Et sur un titre de
Alain Bachung.
Waouh. Ok.
Je dis le titre ou je dis pas le
titre? Non,
je dis pas le titre.
Pardon. Moi, je voulais savoir. Un peu de suspense.
Non, je suis très heureux. J'ai jamais joué avec eux, avec tout le groupe, et c'est une grande joie, c'est une grande chance, et puis cette émission est merveilleuse. Enfin, c'est une grande chance d'y être à chaque fois.
Ouais, c'est une grande chance de vous avoir. En tout cas, il y aura une quarantaine d'artistes.
Oui, c'est complet.
C'est complet
en 10 minutes, c'est ça?
En une matinée, les places sont parties. Ce qui permet déjà d'annoncer qu'il y aura 130 000 euros de reversés à la Fondation pour la Recherche Médicale pour la lutte contre le cancer. Parce que, contrairement à certains concerts, je dis ça sans penser à personne en particulier, où on dit les bénéfices seront reversés. C'est pas pareil de dire la recette est reversée et les bénéfices sont reversés.
Là, c'est pas pareil du tout.
Non, c'est pas pareil du tout. Donc là, c'est la totalité au centime près qui est reversée, évidemment, à la lutte contre le cancer. Des excuses à présenter, Daniel Morin?
Absolument. Déjà, désolé pour nos auditeurs habitués à l'ultra-violence de cette émission et qui, ce matin du 11 novembre, ont trouvé insupportable le calme, la douceur, la bienveillance de notre invité Raphaël. Désolé, mais pour des raisons d'audience, Raphaël, on va devoir vous péter la gueule. Voilà. Désolé pour les auteurs, compositeurs, interprètes brésiliens ou portugais qui se sentaient flattés par les propos élogieux quant à leur mélodie et leur poésie tenue par notre invité. Ça, c'était jusqu'à ce qu'ils déclarent qu'ils ne comprenaient rien, mais que c'était pas grave, que s'ils comprenaient, ils aimeraient, bref. Il s'en tape. Désolé pour Nana Mouskouri qui m'a envoyé un fax à la pause pour me dire qu'elle refusait Ouais, bah, elle fonctionne au fax. Hein. Notre associée comparée à Leïla Kadour Boudadi, Nana est furieuse. Elle n'a pas du tout apprécié la comparaison. Elle dit que ça l'a vieilli. Désolé pour les proches de Raphaël qui se sont rendus compte ce matin que leur ami, entre guillemets, avait des SMS deep pour chaque événement de la vie. C'est moche, mais c'est un peu ce qu'on fait tous les jours ici avec les invités. D'ailleurs, vous verrez, demain, on reçoit Clémentine Célarié. Mais bien sûr, on parlera de votre livre, Raphaël.
J'adore Nana, notamment les chansons que Michel Legrand a pu lui écrire.
Clairement, clairement.
Les duos.
Le soleil, la lune, les éclipses, les éléments naturels, et
le
puis
jean,
la vie. La vie, les naissances, les accidents de la vie, même s'il y a toujours cette peur de la mort qui est présente, mais qui peut-être nous fait aussi avancer ou profiter de chaque moment, de chaque instant, et lui donner un relief particulier. C'est agréable à lire, et puis surtout, je sais pas si c'est le but, mais en tout cas, mais ça fait réfléchir. En tout cas, ça donne envie de se poser des questions aussi sur le regard que l'on porte sur les autres et sur ces instants perdus, peut-être, ou au contraire exploités, auxquels on donne une dimension particulière.
Il y a des fulgurances aussi, des fulgurances, il y a des phrases comme ça qui résonnent.
Oui, et puis on se marre. Ouais, si vous aimez le jean, si vous aimez David Bowie, si vous aimez les éclipses, le soleil,
si
voir
la
mer, vous allez aimer ce livre et vous allez vous marrer quand même un petit peu.
Une éclipse. On a un peu parlé de la mort, on en parlera beaucoup demain aussi avec le cancer, qui est le sujet du livre de Clémentine Célarié, qui sera notre invitée. Merci Raphaël.
Merci beaucoup. Ça fait une demi-heure, j'essaie de modifier le volume de mon casque sur un truc qui est scotché.
C'est parce que c'est pas le bon bouton.
Et je me disais, vraiment, ça marche pas. Ça. Déjà, ils m'ont pas mis ce truc à l'écran. Ensuite, volume est...
Ça vient.
Vous savez, c'est comme dans les taxis où on vous ferme la fenêtre, vous avez pas le droit, vous êtes comme un enfant. Mais là, je me suis dit, c'est pareil. Je dois écouter
une chose à la fois. Soignez-moi cette hanche.
Passez une bonne journée.
Merci beaucoup.
Bon anniversaire
en retard. Merci beaucoup.
À demain avec Clémentine Célarié. Bonne journée.